dans un jargon, et parfois on ne sait pas trop ce que ça veut dire au final. Et donc on va prendre un texte ce matin où on va essayer de rentrer un petit peu plus en profondeur dans la définition de ce que peut être le salut. Alors, on a un... C'est pas un PowerPoint ce matin, c'est un... Un canva. Mon fils m'a dit, papa, tu es trop vieux. PowerPoint, c'est fini. Donc, il a utilisé un autre logiciel et c'est lui qui m'a fait le diaporama. Vous le reprendrez quand même parce qu'il a dit que j'étais trop vieux. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Romains 8, versets 28 à 30. Bon, ce sera affiché, mais ceux qui veulent suivre dans leur propre Bible, faites-le. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce trésor inestimable, Seigneur, que tu nous permets d'ouvrir et dans lesquels tu nous permets de plonger les regards. Et je prie, Seigneur, que ce matin, nous puissions comprendre encore plus en profondeur ta parole, Seigneur, et ce sujet spécifique du salut, Seigneur, de ce qui fait que nous sommes proches de toi, Seigneur, de ce qui fait que l'on peut entendre ta voix, et que l'on n'aille pas vers la mort, Seigneur, mais vers la vie éternelle. Fais-nous du bien ce matin. Sois glorifié. Amen. Je voulais qu'on aborde ce matin la question du salut selon ce texte donc de l'apôtre Paul. Pour nous plonger dans cette œuvre magnifique, ce salut que le Père ordonne, que le Fils accomplit pleinement et que le Saint-Esprit applique à nos vies. Ce que je voudrais qu'on essaye de comprendre peut-être un petit peu plus ce matin à ce sujet, au sujet de notre salut, c'est qu'il provient à l'origine de la volonté du Père. Qu'il est accompli dans son entièreté, d'accord, en totalité, par l'œuvre du Fils incarné. Et cette œuvre qui rend manifeste la grâce de Dieu. Et qu'il est attesté et scellé, c'est-à-dire sûr et solide, par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ce salut dont la Bible parle comprend plusieurs choses. Il comprend, pour l'homme qui se repent, une destinée nouvelle. Au lieu de la mort, la vie éternelle. Il comprend un appel à sortir des ténèbres de ce monde et venir habiter en Jésus-Christ, qui est la lumière. Il comprend aussi un accomplissement de la justice de Dieu. Dieu rend justice dans son salut. Et enfin, il comprend une entrée et une participation à la gloire de Dieu qui transforme ses saints jour après jour. Donc dans le texte que j'ai choisi pour ce matin. Au verset 29, il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Et donc, on va commencer avec ce point-là. Prédestinés. Je peux vous dire que ça fait couler beaucoup d'encre. Mais bien sûr, on ne va pas aller au bout du bout et je vous invite à venir discuter sur cette question-là qui, pour moi, est une question fondamentale de notre foi. Qu'est-ce que ça signifie, prédestiné ? Eh bien, ça signifie destiné par avance. Nous n'entrons pas dans le salut de Dieu parce que nous le voulons ou à cause de ce que nous faisons. Nous entrons dans le salut car Dieu a préparé en avance le chemin vers la vie éternelle. On va prendre un texte dans Éphésiens 1, verset 4, il est dit « En lui, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Le salut ne démarre pas au moment de la création. Ça démarre avant même que le monde soit créé. Un petit peu plus loin au verset 7, « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » D'accord ? Le salut vient vraiment du cœur et de la volonté de Dieu. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, c'est-à-dire lorsqu'il enverrait le Fils, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Comment ? Eh bien, ayant été prédestinés. D'accord ? La prédestination est vraiment un thème biblique, ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. On est prédestiné pas par nos actions ou notre volonté, mais par ce que Dieu a élaboré dans son plan, dans son dessein. D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pourquoi est-ce que la définition du salut inclut nécessairement la notion de prédestination ? Ben, tout simplement parce que le salut prend son origine en Dieu lui-même. Dieu existe avant toute chose. Avant même que la création ne pointe le bout de son nez, Dieu est. Dieu est déjà présent de toute éternité. C'est bon des fois de dire des choses que l'on ne comprend pas. Mais je vous rassure, moi non plus. Mais on est obligé de parler de ces choses-là. Avant que le monde ne fût créé, Dieu est. Ne me demandez pas de vous faire un dessin. Mais acceptez-le dans votre cœur, par la foi, parce que c'est comme ça que la Bible décrit Dieu. Les desseins de Dieu pour sa création sont en place bien avant que le monde soit. Et puisque le salut vient de Dieu, il est assez logique de considérer la prédestination comme dessein de Dieu, avant même l'existence des êtres humains. La conclusion immédiate, que parfois on oublie trop vite, Dieu n'a pas élaboré un scénario catastrophe en Éden, quand l'homme et la femme sont tombés. Mais sachant toute chose, il a prédestiné en avance un chemin vers la vie éternelle pour sa création. On peut prendre un texte dans 1 Pierre 1, versets 18 à 21. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté. On est encore dans le salut, bien sûr. De la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. D'accord ? Le sacrifice de Jésus était déjà prévu. Et il est manifesté, l'expression, je le rappelle, est la fin des temps, c'est le temps où Jésus a mis les pieds sur terre. À partir de ce moment-là, la fin des temps commence dans la Bible. D'accord ? Et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pourquoi la doctrine de la prédestination, elle est si importante ? Ben c'est pour que votre foi et votre espérance ne reposent pas sur vous. Si vous faites ça, vous allez être dans de nombreux troubles, les amis. Si votre foi et votre espérance reposent sur votre capacité à être positif, à résister, ça va être dur, la vie. Mais si vous comprenez que votre salut repose sur l'être éternel, on peut poser les valises. D'accord ? Elle repose sur Dieu. Je suis convaincu que si la prédestination est bien comprise, elle donne une grande paix et une grande assurance. Mon salut, ma foi et mon espérance reposent sur Dieu. Celui qui détermine ma place dans la vie éternelle, ce n'est ni moi, ni les circonstances de la vie. Celui qui détermine ma place dans l'éternité avec Dieu, c'est Dieu, par sa nature qui est éternelle. Dieu m'accueille en lui, en Christ. Vous pouvez relire tout le chapitre d'Éphésiens, on en a lu un bout, et tout le long, on a cette ritournelle, en Christ, en lui, en Christ. En lui, Dieu nous a pris et nous a mis en lui. Alors, prédestiné, oui, mais à quoi ? La suite du verset nous le dit. Prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je pense que ça veut dire prédestiné à glorifier Dieu en glorifiant son Fils. Je crois que cette phrase, ça veut dire ça. Nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus, mais dans quel but ? Paul nous dit « afin que le Fils soit premier ». L'expression « premier-né » ici, dans le verset, ne signifie absolument pas que Jésus est né, d'accord ? Qu'il a un début, si ce n'est bien sûr dans son humanité. Ça, ce sont par exemple les témoins de Jéhovah qui vont le dire. L'expression « premier-né » renvoie tout simplement à l'Ancien Testament qui offre un certain nombre de droits privilégiés que possédait le premier-né d'une fratrie. Jésus est le bien-aimé du Père, qui reçoit en premier lieu tout l'amour du Père. On a cette image dans les évangiles où Dieu vient lors du baptême de Jésus et va dire « En lui, j'ai mis toute mon affection. » Et nous, du coup, les prédestinés, nous sommes aimés en second. Nous sommes aimés en second, car nous avons été placés en Christ et nous devenons semblables au Fils. Alors, je suis désolé, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle ce matin, mais nous ne sommes pas le centre du monde. nous ne sommes pas le centre de l'attention et de l'amour de Dieu. Ça fait du bien de l'entendre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. Nous ne sommes pas le centre. Jésus est le centre, il est le premier. Et nous ne sommes que second. On va encore enfoncer cette pensée avec Colossiens 1, versets 16 à 18. Car en lui, en Christ, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, à nouveau l'expression, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il y a eu un amen. Afin d'être en tout le premier. Amen, oui. Et moi aussi, je dis amen de tout mon cœur. Jésus, c'est toi le centre de l'attention de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'existence même de ce monde. Et moi, je n'ai de valeur que parce que tu m'as pris, Jésus, et tu m'as placé en ton sein. C'est ça l'évangile. Nous ne sommes pas destinés. C'est une expression qui est beaucoup utilisée dans le monde évangélique. Nous ne sommes pas destinés à être des princes et des princesses qui vivent dans l'opulence, loin de tout souci. Au contraire, nous sommes invités dans le dessein du salut de Dieu à devenir les serviteurs du Seigneur et les serviteurs les uns des autres. En comprenant que la première place sera toujours pour Jésus. Combien de fois on est comme les disciples ? Jésus, tu me donnes la première place. Et parfois on va envoyer notre mère. Nous aurons accès à une forme de gloire future, mais cette gloire est directement liée. Et je vous encourage à relire les versets qui parlent de la gloire qui nous est réservée. Eh bien, elle est directement liée à notre capacité d'endurer l'opposition et la souffrance produite par ce monde qui ne veut pas de la vérité de l'Évangile. Si Jésus a la première place, alors je vais souffrir. Mais je vais recevoir en retour une part de la gloire de Dieu. Petite, parce que Jésus restera le premier en toute chose. On finit ce point, la prédestination, avec Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Waouh! C'est magnifique. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. On a besoin de changer parfois, et je crois que la prédestination nous invite à changer notre vision des choses. Le prince, c'est lui. Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Mais le premier-né, celui qui a l'héritage, c'est lui. Et nous, nous sommes co-héritiers parce que nous avons été placés en Christ. Amen. Deuxième, appeler. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. L'entrée dans la vie éternelle n'est pas quelque chose d'automatique. C'est bête à dire, mais c'est tellement vrai. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu que nous avons un accès systématique ou automatique à la vie éternelle. Au contraire, à cause du péché qui a infecté toute l'humanité, l'accès à la vie éternelle est devenu premièrement interdit. Premièrement, l'accès est barré. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il a mangé le fruit de la connaissance, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu dit, non, c'est fini, tu n'as plus droit à cela. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât le jardin d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, premièrement, la vie éternelle nous est interdite. Deuxièmement, limité. Deuxièmement, l'accès est limité. Arrêtons de penser que les portes sont ouvertes en grand. L'accès est limité. On peut prendre un texte en Jean 10 où Jésus dit, je crois qu'il n'y est pas là sur le diapo, Jean 10, verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Il n'a pas dit, je suis le terrain de foot, ou je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte d'accès ou de refus à la vie éternelle. Et quand on parle du salut, c'est important de s'en rendre compte. La fameuse chanson de Paul Naref, « On ira tous au paradis », mais c'est tout simplement une fable qui se lève contre la vérité de l'Évangile. L'accès au salut à cause du péché est premièrement interdit, deuxièmement restreint. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. Porte et en plus étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où ? Celui-là, il est large. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Je crois que parfois, le christianisme d'aujourd'hui, dans ce christianisme, il y a un glissement. Et sûrement à cause de tous ces siècles d'humanisme, de la pensée, de la philosophie, humanisme, qui n'a cessé de répéter que l'homme était bon, que l'homme était très important et que l'homme est le centre de tout. Et à cause de cette pensée, je crois qu'il y a eu un glissement vers une pensée qui dit que l'être humain, au final, mérite la vie éternelle. Ouais. Et que cela ressemblerait à une injustice qu'il soit condamné loin de Dieu. Bon, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais parfois c'est important de les réentendre, ces portes-là. Parce que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Bien au contraire, l'homme a déjà été jugé par Dieu lui-même, et il l'a jugé coupable et digne de mort. Genèse 2, relisez Genèse 2 et Genèse 3. Et si Dieu n'intervient pas, la justice séparera d'une manière éternelle l'homme ou la femme pécheur de la présence de Dieu. Mais voilà, Dieu a décidé de lancer un appel. Appelé. Jean 10, versets 26 et 27. « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. » Jésus appelle ses brebis et ses brebis l'entendent. « Je les connais et elles me suivent. » Jésus vient voir ses brebis, il leur dit « Toi, suis-moi. » Et les brebis se lèvent et suivent le maître. Celles et ceux qui ne sont pas les brebis du Seigneur n'entendent pas cet appel, mais ceux qui croient entendent cet appel de Jésus et se mettent immédiatement à le suivre. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Appelé, d'accord ? Prédestiné, appelé. Je suis convaincu que si nous comprenions mieux cet appel de Dieu, nous serions plus souvent sur nos genoux pour implorer la grâce de Dieu pour les perdus. Parce que ceux qui n'entendront pas l'appel de Dieu, ce n'est pas vrai, ils n'iront pas dans la vie éternelle. Et Dieu nous laisse ce fardeau en tant que communauté, en tant qu'église à Marguerite et dans la région de Nîmes, de nous mettre à genoux et de prier, de supplier. Père, fais entendre la voix de ton Fils à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas prié comme ça ? Pitié, Seigneur, fais entendre le son de ta voix. Appelle tes brebis à rentrer dans la bergerie. Parce que si Jésus ne le fait pas, on ne peut pas trouver la porte étroite et le chemin resserré. Prédestiné, appelé, justifié. Ça va, je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours là ? Je sais que ça, c'est un peu théologique ce matin, mais ça repose, je crois, des fondements dans nos têtes. Justifié. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Je vous pique un verre d'eau, l'équipe de louange. Pardon, c'était pour vous réveiller. J'espère que ce n'était pas déplacé. Que veut dire être justifié ? Cela n'a rien à voir avec des excuses ou des explications qui justifieraient notre péché. Parfois, on a cette image-là. Je me justifie, c'est-à-dire je te donne des excuses pourquoi j'ai fait ça. Le péché appelle une condamnation devant Dieu. Et cette condamnation, c'est la mort. La justification ne signifie en aucun cas trouver des raisons au péché. C'est pas ça la justification. Selon la Bible, bien sûr. La justice de Dieu exige que le péché, avec le pécheur, vous vous rappelez ? Cette fameuse phrase, Dieu punit le péché mais pas le pécheur. C'est bon, vous avez fait reset et vous l'avez enlevé, parce que ça, c'est pas vrai. Dieu exige que le péché avec le pécheur soit condamné à la mort éternelle. Et c'est ce que Paul nous explique au début du chapitre 8, au verset 3 et 4. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il est condamné. Où ? Dans la chair. Ça veut dire quoi ? Dans un homme. Il est dans un homme, le péché. À cause du péché, en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justification n'est pas, je m'excuse, la justification naît de l'accomplissement de la loi de Dieu, qui n'excuse pas le péché, mais qui met à mort, et qui met à mort le Fils de Dieu. Afin que justice soit rendue. C'est ça la justification. C'est pas je trouve des excuses à mon péché. C'est le Fils de Dieu est mort. Pour que la condamnation qui pesait sur moi, pour que la justice de Dieu soit accompli. Il n'y avait aucun moyen que la justice ne soit pas accomplie. Et le seul moyen, c'est que le Fils de Dieu vienne en chair et vienne mourir en portant cette condamnation dans son corps. De Corinthiens 5, il y a pas mal de références, vous pourrez les renoter ou on vous transmettra le diaporama. Au verset 21 de Corinthiens 5 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » À partir de là, la justification devient un acte de déclaration légale et juridique. C'est ça la justification. C'est une déclaration légale. La loi est accomplie et juridique. La condamnation a été consommée. Ce n'est pas un processus par lequel nous devrions passer pour enfin aboutir à être juste. Nous sommes déclarés justes. C'est ça aussi le message du salut. Nous sommes déclarés justes. D'autres expressions, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes déclarés justes grâce à l'œuvre de Jésus à la croix, qui a pris sur lui la condamnation liée au péché et en est mort. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le péché est mort avec la mort de celui qui s'est substitué au pécheur. La justification, on peut citer Luther, c'est la diapo d'après. La justification est ce merveilleux et inestimable échange. Je trouvais ça beau et ça nous aide à comprendre. C'est ce merveilleux et inestimable échange. Le Christ Jésus prend nos péchés et en échange nous donne sa justice. C'est ça la justification. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Cette déclaration est annoncée dès le début du chapitre 8, où on a pris le texte où Paul commence. Ça, j'espère que vous le connaissez par cœur, celui-là, Romains 8, verset 1. Il n'est pas affiché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette déclaration est symbolisée dans de nombreux passages, par exemple par le vêtement blanc dont les croyants sont recouverts, ou alors cette église glorieuse en Éphésiens 5 que Jésus fait paraître sainte et irrépréhensible devant lui. Merci Seigneur, merci pour cette justification Seigneur. Merci pour ton œuvre à la croix et aide-nous, s'il te plaît Seigneur, à comprendre qu'elle a été suffisante et parfaite. Que je suis aujourd'hui déclaré juste devant toi, non pas à cause de mes œuvres ou de ma capacité à tenir bon, mais à cause de la consommation, de la condamnation éternelle par le Fils de Dieu qui est mort sur cette croix et qui a englouti dans sa mort le péché d'une manière définitive. Amen. Et le dernier point, c'est glorifier. Voilà ce que veut dire le mot salut, prédestiné, appelé, justifié, et nous finissons par ce terme glorifié. Alors je ne vais pas trop m'y attarder, on en a un petit peu déjà parlé. Dieu nous glorifie ne signifie pas que nous avons directement accès à une gloire divine. Alors, je vais utiliser des gros mots, mais c'est presque la fin, alors vous me pardonnerez. On peut distinguer deux formes de gloire. Il y a la gloire intrinsèque à Dieu. Et celle-là, elle n'appartient qu'à Dieu. Et elle n'est partagée qu'au sein de la Trinité. C'est la gloire divine. Et puis, il existe une forme de gloire que l'on va qualifier d'extrinsèque. Et au sein de cette gloire, une part se révèle partiellement au travers de la création de Dieu. Et c'est à cette gloire-là que nous avons accès, pour l'unique raison que nous avons été placés en Christ. Gardons en mémoire que la gloire à venir, cette gloire promise, est directement liée à Jésus et, on en a parlé, à la souffrance. Les versets du Nouveau Testament qui parlent de la gloire à venir pour les hommes sont liés à la peine que l'on endure ici. D'accord ? Parce que le premier à qui revient la gloire, c'est le Fils. On peut finir avec ce, toujours dans Romains 8. J'ai pris en fait plusieurs passages dans le même texte, d'accord ? Et là, on finit avec Romains 8 au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. En conclusion, et je peux réinviter l'équipe de louanges à venir. En conclusion, le salut vient de Dieu et nous amène à Dieu pour l'éternité. Amen. Ils viennent de lui.